avant de méditer ou avant de partager quelque chose qui me tenait à cœur de vous partager ce matin, je vous invite à reposer. Pour construire cette spirale de domino, et cela s'écroule en quelques minutes. Un ami de notre fille aînée voulait depuis toujours être pilote. Il était brillant. Il avait passé tous les tests physiques après la terminale et tout était bon pour s'inscrire dans ce projet. Il s'est inscrit en prépa maths pour bien préparer le concours. Il a travaillé d'arrache-pied pendant 2 ans. Il a mis sa vie entre parenthèses. Au moment du concours, il a réussi brillamment tous les tests écrits. Au moment de passer les examens médicaux pour être pilote, pour entrer dans l'école de pilote, il a été recalé. Sa vue avait fortement baissé en 2 ans. Probablement lié au travail le soir, au niveau des cours. 2 ans de travail acharné pour ne pas pouvoir vivre son projet. Est-ce que vous avez déjà passé du temps à construire un ou plusieurs projets dans votre vie personnelle, familiale, un ou plusieurs projets dans votre vie professionnelle, un ou plusieurs projets au niveau de votre église? Pour ces projets, vous avez certainement investi du temps, peut-être des années de construction, des discussions, peut-être même que vous avez investi des sommes d'argent assez importantes. Vous avez rêvé de ces projets, vous les avez imaginés grandeur nature, vous vous êtes projeté dans les jours, les semaines, les années à venir. Et pour une raison ou une autre, ces projets sont tombés à l'eau. Ils n'ont pas vu le jour. Peut-être que ça s'est effondré de manière assez violente, comme les dominos, ou peut-être que ça s'est fait de façon plus insidieuse, mais le résultat était le même. Peut-être que vous avez passé du temps à construire une relation, et que vous pensiez que cette relation était solide, riche en confiance et en respect. Et cette relation s'est abîmée, détériorée, les liens se sont peut-être délités, peut-être même cassés. Peut-être que vous avez désiré transmettre certaines valeurs à vos enfants, petits-enfants, et eux ont peut-être choisi d'autres voies, d'autres valeurs. Alors j'imagine, je ne connais pas vos vies, mais j'imagine que d'autres exemples peuvent se basculer dans votre tête. Face à ces événements, à ces situations ou à ces relations, quand quelque chose ne se passe pas comme on avait imaginé, comme on avait projeté, comme on avait souhaité, il y a comme un sentiment d'impuissance. On vit une situation d'impuissance. On est face à quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qu'on n'avait pas souhaité, qui nous laisse assez perplexes, démunis. Tout ce qui nous semblait tellement solide que rien ne pouvait venir à bout, et bien ça s'est transformé comme du sable. On ne peut pas agir dessus, on ne peut pas changer la situation, on n'a pas de prise dessus. Hein. Et on se sent totalement impuissant. Est-ce qu'il y a certains domaines dans vos vies où vous vivez cela? Quels sont nos lieux d'impuissance? Ces derniers mois, il y a un passage dans la Bible qui m'a... C'est un passage, c'est plus spécialement un verset qui m'a vraiment interpellée. Face à une situation totalement inimaginable, une situation d'impuissance totale, où tout semble s'écrouler, il y a un verset dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, le verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, femme de Clopas et Marie de Magdala. Ce matin, je mettrai le focus sur Marie, la mère de Jésus. Marie, face à une situation d'impuissance totale, se tient debout près de la croix. Vous connaissez le contexte, et Annie nous l'a rappelé un peu ce matin. Les chapitres 18 et 19 nous rappellent un peu le contexte de ce qui se passe. Jésus est arrêté, livré par Judas. Puis Jésus est interrogé par Caïphe, le grand prêtre. Puis il est jugé par Pilate. Pilate l'interroge, mais ne trouve contre Jésus aucun chef d'accusation. Et Pilate veut le libérer. Mais les Juifs réclament sa mise à mort. Et là commencent les coups de fouet, les moqueries, les insultes, pour en arriver à la crucifixion. Marie, la mère de Jésus, assiste à tout cela. Elle assiste à la violence physique, verbale, faite à son fils, à la mise à mort. Même les vêtements de son fils ne lui sont pas restitués. Ils sont partagés ou tirés au sort. Marie, elle est là, totalement impuissante. À la relecture de ce texte, et du verset 25 en particulier de ce chapitre 19, je me suis posé trois questions. La première question, que nous renvoient ces situations d'impuissance? La deuxième question, c'est comment Marie y fait face et comment nous, on fait face à nos situations d'impuissance? Et la troisième question, c'est quelle attitude cultiver face à des situations d'impuissance? La première question, que nous renvoient ces situations d'impuissance? Je dirais que l'impuissance, elle nous renvoie à nos limites, à notre finitude. L'impuissance nous révèle notre incapacité de tout contrôler. Et parfois, ça fait peur. Parce que c'est totalement à l'inverse de ce que le monde prône autour de nous. L'impuissance, ce n'est pas vraiment une valeur de ce monde. Elle est plutôt décriée. On valorise beaucoup plus la force, la puissance, le contrôle, la maîtrise. Notre monde va nous faire croire, va nous donner l'illusion qu'on maîtrise le monde, notamment avec toutes les avancées technologiques. L'homme peut maîtriser sa vie et celle des autres. Le monde nous fait croire que si nous faisons les bons choix, les bons calculs, les bons investissements, que nous prenons les bonnes assurances, que nous faisons du sport de manière très régulière, que nous avions une alimentation saine, et c'est important de l'avoir. Hein. Mais le monde nous fait croire que si on fait tout ça, on va avoir aucune mauvaise surprise. Qu'on nous garantit la sécurité. Hein. Et c'est vrai, très honnêtement, souvent on a besoin de savoir où on va. On aime bien planifier un peu notre avenir. On aime bien construire certains repères qui nous rassurent. Avoir une bonne santé, une famille, un travail aussi assuré que possible et des revenus fixes. Vivre dans le contrôle, la maîtrise, c'est espérer qu'on ne va pas tomber dans le vide. On souhaite que demain soit assez prévisible. Et si on aime être surpris, on préfère choisir le genre de surprise. Je dirais que ce désir de contrôle, c'est lié en grande partie à un désir de sécurité. On aime se protéger de tout mal. Et pourtant, on connaît des textes dans la Bible, vous les connaissez aussi bien que moi, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, qui nous montrent combien des appuis qui semblent extrêmement sûrs peuvent voler en éclats. On pense évidemment à Job, hein, riche, à la tête d'une grande famille, qui va tout perdre en très peu de temps. La richesse, des êtres chers, la santé. Dans le Nouveau Testament, Jésus va parler de cet homme qui va amasser dans ses greniers et qui commençait à penser qu'il pouvait se reposer en faisant confiance à l'avenir. Il avait mis sa confiance en ses assurances matérielles. D'où le commentaire assez ironique de Jésus, hein, qui constate que cette nuit même, cet homme mourra et que son assurance ne lui sera d'aucun secours. Au fond, on sait assez bien que le monde est incapable de combler notre désir d'infini, nos besoins profonds. Mais en réalité, si on est assez honnête, on vit assez souvent comme si c'était le cas. On a peur de perdre ce qui nous relie à ce monde, nos possessions, nos réussites, l'intérêt et la reconnaissance qu'on suscite autour de nous, notre santé, notre énergie, notre valeur. Tout ce qui nous lie au monde est assez fragile. L'Ecclésiaste nous le rappelle, hein, tout est vanité et poursuite du vent. L'être humain est soumis à des limites, on n'est pas tout puissant. Et je dirais que c'est le choix que Dieu a fait pour nous. Dieu n'a pas choisi de faire de nous des hommes tout puissants. Il a choisi la finitude. Et ça nous est rappelé dès le commencement de la Genèse. C'est le choix de Dieu pour l'humain. Cette pandémie, hein, qui nous touche depuis presque 2 ans, ce virus qui a changé notre manière de vivre, de se rencontrer, qui a bousculé tous nos calendriers, je dirais que c'est un exemple assez frappant de nos limites et de notre incapacité à tout contrôler. Consentir à nos limites, c'est souvent compliqué. On a du mal à le faire. D'où ma deuxième question. Comment Marie a pu y faire face? Comment nous y faisons face? Marie, elle va assister à l'humiliation de son fils, à la mise à mort de son fils. Elle sait que son fils est innocent. Donc imaginez un peu une maman, hein. Elle sait que son fils est innocent. Même Pilate, l'autorité, a confirmé qu'il était innocent. Son fils va mourir là, devant elle. Nous, on connaît la suite, hein. Nous, on sait que Jésus est ressuscité. Mais je ne suis pas sûre que pour Marie, à l'époque, c'était aussi clair que ça, en fait, hein. Je ne suis pas sûre que Marie savait que 3 jours plus tard, Jésus ressusciterait. Rappelez-vous Pierre, quelque temps avant, quand Jésus annonce les événements à venir, quand Jésus annonce son arrestation, sa mort, Pierre, c'est impossible pour lui de l'entendre. C'est pas possible, en fait, hein. Pierre, il va dire, « Non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. » Dans le jardin de Gethsémané, hein, rappelez-vous, Pierre va couper l'oreille, hein, d'un soldat, parce que pour lui, cette situation d'arrestation, c'est totalement impossible. Impossible à imaginer. Pierre, il n'est pas près de la croix. Quelle aurait été votre réaction face à cette situation? Quelle est votre réaction face à une situation d'impuissance? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la révolte? Est-ce que c'est l'hystérie? La victimisation, la violence, la manipulation, la fuite, la dépression? Peut-être que nos réactions sont un mélange de tout ça. Moi, j'ai un caractère plutôt sanguin. Et je pense que pour ma part, je me serais ruée sur les soldats, en fait. Et j'aurais hurlé au scandale. Marie, elle est là. Marie, elle est là au rendez-vous. Marie, elle se tient debout. Ce mot, il est là dans le grec. On ne le retrouve pas dans toutes les transcriptions, mais ce mot, il est là dans le grec. Hein, c'est le verbe estekezan. Mais dans la version originale, on va insister sur sa posture. Marie, elle n'est pas à terre. Marie, elle ne fait pas une crise d'hystérie. Marie, elle ne fuit pas. Ce qui l'a fait tenir, je ne crois pas que c'est sa force, en fait. Marie, elle accepte son impuissance. Marie, elle y consent. Elle dit oui. C'est quelque chose qui me touche profondément. On ne sent pas de dureté chez Marie. On ne sent pas de résistance. Et nous, quelles sont nos résistances face à l'impuissance? Marie, elle a vécu d'autres situations d'impuissance où elle ne maîtrisait pas grand-chose. Marie, à moins de 15 ans, elle apprend qu'elle va être enceinte par l'action du Saint-Esprit, une situation qu'elle n'a pas choisie, dont les conséquences auraient pu être dramatiques. Marie, elle ne demande pas d'assurance. Elle ne dit pas, mais si on va me lapider, comment ça se passe? Parce que ça aurait pu être le cas, en fait. Elle ne demande pas de garantie à l'ange. Elle dit oui. Elle dit oui à Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Elle fait confiance, elle fait alliance avec le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Éternel. Plus tard, Marie doit fuir en Égypte. Hérode veut tuer son fils. Marie fait face à des épreuves assez importantes. Si on revient à l'évangile de Jean, on retrouve la présence de Marie à deux moments. On ne retrouve pas Marie dans tout l'évangile. On retrouve Marie au début du ministère de Jésus et on retrouve Marie à la fin du ministère de Jésus. Les deux fois où on retrouve la présence de Marie, c'est vraiment les deux fois qui encadrent le ministère de Jésus. Dans Jean 2, donc début du ministère de Jésus, début de l'évangile de Jean, on retrouve Marie. C'est une histoire que vous connaissez, les noces de Cana. Jésus est invité à des noces, il manque du vin. À cette époque, les noces duraient plusieurs jours. Et un manque de nourriture ou de vin aurait été un vrai déshonneur, une humiliation certaine pour la famille de l'époux. Dans la tradition, on dit que Marie, c'était probablement la tante de l'époux. Marie, elle en informe Jésus. Elle attend qu'il fasse quelque chose. Je pense pas qu'elle suggérait à Jésus d'aller chercher quelques bouteilles de vin à la cave. Je pense qu'elle espère secrètement un miracle. Je pense qu'elle se dit que c'est le moment pour Jésus de révéler sa gloire, de montrer qu'il est ce Messie tant attendu. Et on voit que Jésus, si vous relisez Jean 2, on voit que Jésus semble repousser l'initiative de Marie. Et il la repousse un peu de manière assez péremptoire. Jésus repose le cadre. Il fera le miracle, mais pas comme Marie l'attendait. Marie, elle aurait pu bouder. C'est la mère de Jésus. Elle lui propose quelque chose. Elle aurait pu s'énerver. Marie, elle va dire « Faites tout ce qu'il vous dira de faire. » Marie, elle cède le contrôle. Elle accepte de ne pas comprendre et de laisser faire. Ma troisième question, quelle attitude cultiver face à ces situations d'impuissance? Marie, elle nous laisse un exemple, celui de cultiver l'humilité et la confiance. Dans toutes ces situations d'impuissance que Marie a pu vivre tout au long de sa vie, je vois en filigrane un lâcher prise et une confiance en Dieu. Marie, elle sait qu'elle ne sait rien, qu'elle ne maîtrise rien, et elle l'accepte. C'est un signe d'humilité. Mais Marie, et on l'a chanté ce matin, Marie, elle sait également que Dieu n'est pas un Dieu menteur. Elle sait que Dieu tient ses promesses. Elle sait que Dieu est vivant et que Dieu l'aime profondément. Elle espère contre toute espérance. Ça, c'est la confiance. Son humanité, faite de fragilité et de limites, peut s'appuyer sur Dieu, humilité et confiance. Quelqu'un a demandé une fois à un vieux prêtre ce qu'il avait appris dans la vie. Il a dit « Toutes les leçons de ma vie peuvent être résumées en deux phrases. Je ne suis pas Dieu et Dieu existe. » Je dirais, dans un certain sens, ces deux phrases expriment les deux attitudes de Marie. La première phrase, « Je ne suis pas Dieu », Ne pas se prendre pour Dieu. Ça, c'est l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître que je ne suis pas tout-puissant. Que je ne connais pas tout, que je ne maîtrise pas tout. J'ai des limites. L'humilité, c'est aussi reconnaître que nous ne pouvons pas penser quelque chose de droit sans y mêler souvent quelque chose de tordu. C'est accepter une remise en question et accepter que notre point de vue n'est pas le seul qui peut être juste. C'est parfois se positionner en décalage par rapport aux attentes du monde. C'est parfois être à contre-courant. C'est vivre le serment sur la montagne. C'est dire oui à notre humanité créée par Dieu. Vous savez, moi je crois de plus en plus que parfois ce qui bloque l'action de Dieu dans nos vies, c'est pas tellement nos péchés si on les reconnaît, mais c'est notre refus de ce que nous sommes. Et je dirais, face à ça, on a pourtant le regard de Dieu. Un regard qui nous autorise à être pleinement nous-mêmes, avec nos forces et nos fragilités, avec nos limites et nos insuffisances. La deuxième phrase, Dieu existe, c'est la confiance. Croire que Dieu est là, croire que je peux lui faire confiance au cœur de mes lieux d'impuissance. Combien souvent nous invitons Dieu à faire un bout de chemin avec nous sur la route que nous on a choisie. Ça on veut bien hein, que Dieu fasse un bout de chemin avec nous sur la route que nous avons choisie. Il est le bienvenu pourvu qu'il ne change pas trop de choses. Hein. Qu'il nous apporte la consolation de sa présence, on lui en est reconnaissant. Mais qu'il ne vienne pas trop changer notre vie au-delà du raisonnable. Quoi. Je crois que Dieu désire changer profondément nos vies. Et nous emmener dans une aventure nouvelle, sur des routes peut-être inconnues, mais qu'il a préparées d'avance. Grandir dans la confiance, c'est grandir dans le lâcher-prise. Avoir confiance, marcher dans la foi, c'est consentir à une certaine obscurité. Accepter de ne pas avoir toutes les réponses que nous souhaitons avoir. Et je dirais que la vie d'Abraham en est un exemple assez frappant. Accepter d'avancer dans un pays d'incertitude, sans carte, sans GPS, sans chemin bien tracé. Parfois, on a l'illusion de penser que si on a les réponses à toutes nos questions, ça ira tout seul, qu'on sera paisible et tranquille. Avoir confiance, c'est accepter de ne pas tout comprendre. Accepter de ne pas avoir la réponse à des questions qui nous semblent normales. Croire que Dieu est souverain. Je dirais que c'est un chemin, un processus. Si je peux entrer dans ce chemin, les situations d'impuissance seront un peu moins lourdes. Je peux faire confiance pour la suite du chemin, même si je ne connais pas la suite. Alors ça ne veut pas dire que je ne peux pas l'espérer. Au contraire, je peux toujours l'espérer, le souhaiter et l'exprimer à Dieu. Comme je peux travailler et faire tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver. Mais d'une certaine manière, la fin ne m'appartient pas. Elle est entre les mains de Dieu. Pour terminer, je dirais que les deux attitudes de Marie, à savoir l'humilité et la confiance, ces deux attitudes découlent d'une communion et d'une proximité régulière de Dieu. Jésus nous invite à nous tenir près de lui, dans une dépendance, une proximité toujours plus grande. Choisir et rechoisir de lui ouvrir nos vies, nos cœurs, l'inviter dans nos lieux d'impuissance et recevoir sa grâce, son amour, sa paix. Marie est debout près de la croix. Marie, elle n'est pas loin. Elle reste près de celui qui l'aime profondément, qui prend soin d'elle jusqu'au bout lorsqu'il est sur la croix. Si vous lisez la suite de ce texte, vous lisez que Jésus confie Marie au disciple bien-aimé qui est appelé à en prendre soin. Jésus fonde une nouvelle famille. Quelque chose de nouveau est en route, où la vie circule. Une nouvelle famille. Cette nouvelle famille est également l'annonce de l'Église chez Jean. Après la mort, la résurrection de Jésus, l'Église va voir le jour. quelque chose de nouveau va naître où la vie continue de circuler. Et je crois que c'est ce que le Seigneur désire pour nous. Ma prière aujourd'hui, c'est que la vie puisse jaillir, peut-être de façon toute nouvelle, à partir de nos lieux d'impuissance. Que le Seigneur vous bénisse.